Suivez Priorité Santé avec Sunou Assurance. Notre métier, l'assurance, et Sunou Bank avec vous à chaque étape.
Priorité Santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Déménagement, voyage, rencontre, séparation. Si la nouveauté est pour certains enthousiasmante, revigorante, pour d'autres, le changement est un facteur de perturbation, perte des repères et d'une certaine manière, mise en danger. Pourtant, au cours de l'existence, le changement est inéluctable, aussi bien dans notre vie familiale qu'amoureuse, dans le parcours professionnel que dans l'évolution de nos relations sociales. Et même en ce qui concerne notre santé, puberté, ménopause, quand tombe un diagnostic et la fin de vie. Alors comment expliquer que si pour certains changer, c'est s'adapter, se renouveler, pour d'autres, c'est non seulement compliqué, mais cela peut générer des craintes, une angoisse, voire un déni, un refus qui peut conduire à une véritable résistance au changement. Alors qu'est-ce qui va déterminer cette capacité d'adaptation ? En cas de blocage, peut-on en comprendre les mécanismes pour sortir de l'impasse ? Vos témoignages, vos questions. Et pour nous joindre, le numéro WhatsApp de l'émission 33 7 71 18 46 41. Une psy à votre écoute dans Priorité Santé. Quels conseils pour accepter plus facilement le changement ? Comment expliquer notre incapacité d'ailleurs à l'accepter ? Avec nous en studio, on vous retrouve, docteur Marie-Claude Gavard, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes psychiatre et psychothérapeute à Paris. Et en fin d'émission, on va parler de la prise en charge du VIH pédiatrique à Djibouti à l'occasion d'un séminaire qui se tient jusqu'au 7 décembre sur place. Nous donnerons la parole au docteur Emma Assina. Elle est pédiatre et cofondatrice de l'association Solidarité Féminine qui organise cet événement à Djibouti.
Priorité santé sur RFI.
Docteur Gavard, est-ce qu'avoir peur du changement, ce n'est pas finalement un réflexe assez normal dans un premier temps ?
Alors oui, tout à fait. C'est tout à fait normal puisque c'est risquer, c'est penser qu'on risque de sortir de notre zone de confort. Donc, notre cerveau a besoin d'une certaine routine qui est sa sécurité et l'appréciation des repères. Lorsque c'est trop, ça devient un handicap au quotidien et la vie devient difficile.
Alors précisément, quand cette peur, elle devient problématique, à partir de quel moment on doit se poser des questions sur les freins que chacun, chacune active pour retarder, voire même pour éviter carrément un changement inéluctable ?
On peut se poser la question de ce qui freine. Parce que si on a une curiosité de la nouveauté, il n'y a pas du tout ce stress. Hein. Donc, il y a une partie éducative dans l'enfance. Qu'est-ce qu'on a vécu qui a pu être inhibant et insécurisant ? On peut imaginer à l'inverse que des parents qui sont très enthousiastes, qui veulent parcourir le monde s'ils le peuvent ou découvrir des tas de choses, montrent à leur enfant que l'ouverture, la nouveauté est un cadeau de la vie. Mais ceux qui sont anxieux montrent l'inverse à leur enfant.
Est-ce que vous diriez, docteur Marie-Claude Gavard, qu'il y a des tempéraments conservateurs, allergiques au changement, quand d'autres sont plutôt curieux, aventuriers, voire carrément casse-cou ?
Oui, mais à nouveau, il faut voir ce qu'ils ont vécu dans l'enfance. Une enfance traumatique fait le plus souvent quelqu'un d'inhibé et qui a peur de l'avenir. Peur de ne pas avoir le contrôle sur sa vie. Les traumatismes font que la crainte des traumatismes ensuite. Donc une vie plus tranquille avec des parents ouverts et qui montre à l'enfant qu'il peut avoir confiance dans la vie, en eux et en lui-même, il n'y aura pas cette crainte.
Est-ce qu'il y a justement des moments précis, je pense au divorce, à la séparation ou à un déménagement, ce que connaissent beaucoup de personnes, qui typiquement peuvent provoquer ce refus, cette peur du changement ?
Oui, s'il n'y a pas un accompagnement adéquat, absolument. Et c'est vrai qu'un enfant qui perd un parent, par exemple, peut avoir très peur de l'avenir en se disant « et si je perds le deuxième parent, et qu'est-ce que je deviens dans la vie ?» Donc il est vraiment nécessaire d'avoir un accompagnement. Les enfants qui déménagent souvent, il y a intérêt à leur montrer pourquoi d'abord il faut le faire et quels seront les avantages. Hein ? Donc la prise en charge psychologique des enfants est fondamentale.
On comprend bien tout cet accompagnement, ne pas faire les choses comme ça d'emblée sans mode d'emploi.
Ah tout à fait, il faut expliquer à l'enfant et le plus souvent quand il y a une grande peur de l'avenir, c'est que la personne a intégré un manque de confiance en elle-même.
Alors justement, cette résistance, ces difficultés d'adaptation, ça peut prendre des formes plutôt différentes. On peut aller carrément du silence, de la passivité au déni, voire au rejet, docteur Marie-Claude Gavard, voire même des personnes qui font comme si rien n'avait changé, hein, un déni qui peut même être un petit peu inquiétant. On peut aussi être confronté à ce genre de situation.
Ah oui, tout à fait. Suivant l'intensité de la crainte, suivant aussi l'environnement. Il y a des environnements, imaginons un pays en guerre, l'environnement est très traumatique. Donc, tout dépend de ce que la personne a intégré dans l'enfance et l'adolescence et aussi de ce qu'elle peut faire pour essayer de reprendre confiance en elle et se dire qu'il n'y a peut-être pas besoin de tout contrôler.
On peut comprendre aussi qu'il y a des changements qui sont extrêmement douloureux, la perte d'un emploi, un conflit, et tout ça, ça peut quand même conduire à de l'isolement.
Ah oui, l'isolement devenant un évitement. Mmh. On évite tout. Donc comme ça, on évite, dans sa tête, on évite le mauvais. Mais si on évite tout, on se crée du mauvais.
On va tout de suite prendre un premier auditeur en ligne. Pour ça, on part pour la République démocratique du Congo.
RFI à Lubumbashi. 98 FM.
Eric, bonjour.
Et bonjour madame.
Alors vous êtes âgé de 25 ans Eric et vous êtes étudiant en médecine. Le changement, ce grand changement dans votre vie, ça a été une rupture amoureuse. Est-ce que vous pouvez s'il vous plaît nous expliquer ce qui s'est passé ?
D'accord, merci pour cette opportunité. Les faits se sont déroulés il y a cela près de 2 à 3 ans. J'étais en premier doctorat et j'étais en relation avec une fille de ma promotion bien sûr, avec qui j'avais déjà passé près d'un an. Et puis, je pense, un soir d'un certain vendredi, elle m'appelle, c'était, je pense, à son église. Je suis parti la rejoindre. Nous avions passé près de 15 minutes. Et c'est là qu'elle m'annonce que, vu que je suis catholique et qu'elle est d'une autre église, il y a peu de probabilité que nous puissions finir tous ensemble. Alors que c'était un sujet dont nous avions parlé. Et là, il me fait comprendre qu'il n'y a pas moyen que nous puissions continuer. Et c'est un peu ça. Ça n'a pas été du tout facile, puisque c'était la veille de mes examens. Je n'avais pas du tout supporté l'affaire. Et j'ai juste fait ces examens malgré moi. Et juste après, il y a eu un épisode de dépression suivi de beaucoup de choses. En tout cas, j'ai eu vraiment suffisamment de temps pour me remettre et je ne sais même pas si exactement je m'en suis déjà remis puisque c'était la fille avec qui je me projetais déjà dans l'avenir. Et puis, et tout d'un coup, ça s'est arrêté. Ce n'était pas facile en tout cas.
On comprend bien, ça a été un véritable traumatisme pour vous. Dans cette période, vous vous êtes senti plutôt fragile. Est-ce qu'il y a eu des conduites à risque, par exemple des consommations qui auraient pu nuire à votre santé ?
Non, pas des consommations des substances. Au moins, j'étais devenu très accro aux réseaux sociaux.
Ouais.
J'ai passé pratiquement toute la journée dans ma chambre, sur les réseaux sociaux. À part ça, je m'étais déconnecté de tout. Je m'étais enfermé. C'est ce qui a fait en sorte que j'avais à tout moment des pensées très suicidaires. Et je me disais que peut-être... je n'aurais pas suffisamment de temps pour aboutir à mes objectifs que je m'étais fixé dès le départ et ça ne servirait presque à rien de vivre en tout cas.
Ça veut dire que comme ce projet amoureux, il était tombé à l'eau, vous remettiez après tout en cause. Il n'y avait plus d'avenir.
Donc je me disais, bon, tout ce que j'ai planifié, j'ai l'annexé, elle était au courant de tout. Nous faisions presque tous ensemble. Je ne faisais rien particulièrement puisque c'était quelqu'un qui faisait presque partie intégrante de ma vie. Mmh. Et puis tout d'un coup, je m'étais retrouvé tout seul, sans appui émotionnel.
Mmh. Mais vous parlez quand même de tout ça au passé, ça veut dire que vous avez quand même eu des recours. Est-ce que vous avez pu en parler à quelqu'un dans votre entourage ?
Effectivement, j'ai mon meilleur ami Noël qui a toujours été là pour moi, qui n'était même pas au courant. Et quand je lui ai annoncé, À première vue, il m'a dit que c'était peut-être une blague et que la fille finirait par revenir. Mais plus le temps passait et plus il comprenait que ce n'était pas du tout le cas et que c'était très intense de ma part sur le plan émotionnel et que peut-être dans les jours à venir, il pourrait facilement me perdre.
Est-ce qu'aujourd'hui, Eric, vous recommencez à faire des projets ?
Oui, c'est là depuis quelques mois. Je me suis remis. J'ai une liste des choses que j'ai éliminées automatiquement de ma vie. Et en quelque sorte, j'ai adopté un nouveau mode de vie, un nouveau départ. Je me suis accroché à mes objectifs. Et question de laisser une sorte de nouvelle chance à mon existence.
Docteur Marie-Claude Gavard, on entend ce récit d'Éric. Est-ce que c'est le changement ou est-ce que c'est la perte qui lui fait mal ?
C'est l'abandon brutal qu'il n'a pas compris et qu'il ne trouve pas rationnel. Donc, Éric, vous avez souffert d'une dépression qu'on appelle réactionnelle, c'est-à-dire en réaction à un événement très douloureux. Et là, ce que l'on voit quand même dans ce que vous dites, c'est que vous aviez tout planifié, toute votre vie, avec un fantasme de contrôle absolu sur tout. Or, dans la réalité, on est bien obligé de s'adapter à ce qui se passe, même à ce qu'on n'arrive pas à comprendre, en fait. Donc là, vous êtes sorti de votre dépression, c'est-à-dire qu'à nouveau, vous avez réintégré l'objectivité qu'on a intérêt à avoir dans la vie en disant « c'est un chapitre de ma vie qui s'est achevé, maintenant, il y a tout le livre à écrire ».
Aujourd'hui, Eric, est-ce que vous avez peur à nouveau de tomber amoureux ?
Non, je n'ai pas peur de tomber amoureux parce que je me dis, il y a toujours des filles qui sont saines d'esprit, avec qui je peux potentiellement me remettre en couple. Mais j'ai quand même eu des restrictions quant à ce que je suis en train de faire. Donc, je ne serai pas avec autant de profondeur laisser quelqu'un entrer dans ma vie au-dessus. Et au vu des ce qui a pu se produire, et je me dis que peut-être il y a quelques probabilités que ça se reproduise, même si, au fond de moi, je me dis que si je suis censé aimer, je dois aimer en entièreté sans pour autant garder certaines rationalités qui ne vont servir à rien.
Est-ce que vous aimez l'imprévu, Eric ?
L'imprévu, bon, de façon superficielle, j'étais toujours passionné d'aventure. Mais pour dire vrai, c'était ma première rupture amoureuse et ça, ce n'était pas du tout prévu. Mais je pense qu'avec ce qui a pu se produire, c'est un élément que je vais ajouter dans ma vie.
Cette rupture qui est vécue comme justement un véritable traumatisme par ce jeune étudiant, docteur Marie-Claude Gavard, est-ce que c'est vraiment finalement un changement ou, comme on le disait tout à l'heure, quelque chose qui est inéluctable dans le parcours de vie et finalement une épreuve de la vie tout simplement ?
Oui, c'est une épreuve, j'ai envie de dire même une expérience, parce que maintenant Éric, sorti de cette dépression, sait à intégrer que même s'il y a une rupture amoureuse, on s'en sort. Et ça, c'est quelque chose de très important. Quand Éric dit que maintenant il va s'investir un petit peu moins, c'est pas sûr. Au niveau de la profondeur de l'amour, non. Il va s'investir sûrement énormément, mais il ne va pas tout remettre dans les mains de quelqu'un.
En arrivant avec plus de prudence d'une certaine manière.
Oui, tout à fait.
En tout cas, un grand merci à vous, Éric. Excellente journée en RDC. Docteur Gavard, on va poursuivre notre échange dans quelques instants. On va se retrouver juste après ce titre de Sam Cooke, A Change Is Gonna Come, dans Priorité Santé sur RFI. I was born by the river in a little tent. Oh, and just like the river I've been running ever since. It's been a long time coming, but I know a change gonna come. Oh, yes, it will. It's been too hard living, but I'm afraid to die. Up there beyond the sky, it's been a long time coming, but I know a change gonna come. Oh, yes, it will. I go to the movie
Somebody keep telling me don't hang around. It's been a long, a long time coming, but I know a change gonna come. Oh, yes it will. Then I go to my brother and I say, brother, help me please. But he winds up knocking me back down on my knees. Oh, there have been times that I thought I couldn't last for long, but now I think I'm able to carry on. It's been a long, a long time coming, but I know
Priorité santé et résistance au changement. Comment l'expliquer et comment apprendre à s'adapter à la nouveauté? Nous sommes toujours en compagnie du docteur Marie-Claude Gavard, psychiatre et psychothérapeute à Paris. Et on part pour Dubaï. On retrouve en ligne Dina. Bonjour Dina.
Bonjour à vous, madame.
Alors Dina, vous avez 38 ans et cette installation dans l'Émirat du Golfe, elle remonte à quand?
Depuis 2015.
Est-ce que c'était votre choix, Dina, ou est-ce que vous avez été en quelque sorte contraint pour des raisons économiques de changer de pays?
Oh, c'était pour des raisons en quête d'emploi.
Pourquoi? Parce qu'au pays, c'était plus possible de continuer à travailler. Vous êtes originaire d'où?
Cameroun.
Vous êtes originaire du Cameroun. Vous vivez comment cet éloignement?
Bon, un peu difficile, parce que bon, ici, je n'ai pas d'amis. En fait, ici, je suis plus concentré dans mon lieu de travail. Alors que dans mon pays, j'ai d'abord beaucoup d'amis et on avait l'habitude de se retrouver quelque part. On pouvait s'asseoir, discuter. Bon, le fait que je suis maintenant hors de mon pays, il n'y a plus cette possibilité. Et même quand parfois je vais dans mon pays pour un congé, c'est difficile d'aller rencontrer certains de mes connaissances. Donc, je peux beaucoup plus rester dans mon coin.
Vous souffrez d'isolement, en quelque sorte, c'est ça?
Oui. Je me sens vraiment isolé. C'est ça.
Comment est-ce que vous pouvez décrire votre état d'esprit aujourd'hui, Dina?
Oh, je suis devenu, en quelque sorte, quelqu'un qui est un peu renfermé en soi-même. Je ne suis plus personne qui était attentif avant pour soit un problème de quelqu'un ou bien apporter de l'aide. Donc, c'est un peu ça, en fait.
Est-ce que, d'une certaine manière, vous ne vous reconnaissez plus?
En quelque sorte, je dirais oui.
Qu'est-ce qui manque?
La personne que j'étais avant. Parce que, bon, j'ai aussi un peu ce qu'on appelle des préjugés, quoi. Certaines de mes personnes vont me juger du fait que peut-être quand on va m'appeler, on dit, bon, voilà, peut-être il y a une manifestation quelque part, on souhaite que soit là, et quand je n'y vais pas, on dit « Ah, il a changé, il est devenu quelqu'un d'autre, tout ça ». Bon, c'est un peu ça qui me manque, quoi. La personne que j'étais avant, en fait.
Le Dina d'avant vous manque. Est-ce que vous avez des perspectives de retour au pays, Dina, ou pas vraiment?
Si. Je souhaiterais bien rentrer, bon, mais s'il faut rentrer, c'est pas pour aller rester. C'est pas, il faut bien que je continue à travailler et à prendre soin de moi. Donc, c'est un peu ça.
Vous avez envie de rentrer, mais il faut que vous ayez des perspectives d'avenir, on a bien compris. Alors, Dina, on écoute vos questions à notre invité, je vous en prie.
Alors, moi, j'avais deux questions. C'est de savoir, est-ce que ça peut avoir un impact psychologique dans ma vie, en fait? Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, c'est de savoir comment on fait pour redevenir cette personne que j'étais avant.
Docteur Marie-Claude Gavard, on entend Dina, en fait, qui ne se reconnaît plus et qui se demande si cet isolement, tous ces changements, peut-être même un mal du pays, ça peut avoir un impact sur sa santé mentale. Qu'est-ce que vous en pensez?
Ah oui, tout à fait. D'ailleurs, Dina explique bien que ça fait 9 ans qu'il vit dans un cadre qui ne lui correspond pas, enfin, pas le cadre d'origine en tout cas, qui lui a demandé un grand courage d'adaptation, mais son isolement... À partir du moment où il veut rester à Dubaï, je crois que là, il va falloir qu'il travaille sur l'isolement. Est-il possible de rencontrer d'autres Camerounais qui doivent, si ça se trouve, vivre exactement la même chose? Parce que au Cameroun, la vie sociale est extrêmement développée. Et là, à Dubaï, elle peut être développée pour les personnes qui sont d'origine. Mais... peut-être que les étrangers se sentent un peu isolés. En tout cas, c'est le cas de Dina. Et puisqu'il ne peut pas rentrer au Cameroun sans être sûr d'avoir un travail bon pour lui, il est important qu'il essaie de réduire cet isolement de façon très pratique. Parce que là, en fait... C'est comme une dépression.
Oui, parce que ce sentiment de ne plus être soi-même, ça veut bien dire ça.
Mais oui, Dina, vous êtes certainement en partie déprimée, peut-être pas une dépression très grave, puisque vous arrivez à travailler, etc. Mais on entend comme une tristesse de votre vie. Et l'habitude de vivre en collectivité, se retrouver isolée, c'est vraiment quelque chose de très douloureux. Et je crois que c'est là-dessus qu'il est important d'essayer de corriger ça. Et l'impact psychologique est absolument évident.
Donc, essayer de tisser des liens, peut-être à distance dans un premier temps, peut-être concrètement, rechercher des associations, en tout cas des pistes que vous donne le docteur Gavard. On vous dit un grand merci à vous, Dina. Beaucoup de courage là-bas à Dubaï. Merci pour votre témoignage. Et on va retourner en RDC, en République démocratique du Congo.
RFI à Kinshasa. 105 FM.
Et en ligne avec nous, c'est Floribert. Floribert, bonjour.
Bonjour.
Alors Floribert, vous êtes âgé de 22 ans, vous êtes étudiant, et le changement dont vous souhaitez nous parler, eh bien, il concerne vous aussi, votre lieu de vie. Qu'est-ce qui s'est passé récemment?
Récemment, ce qui s'est passé, c'était que je devrais déménager, parce que là où j'ai resté, c'était super loin d'université. Donc j'étais obligé de déménager pour être tout près de l'université.
Alors Floribert, aujourd'hui, est-ce que vous êtes satisfait de ce changement? Est-ce que ça se passe comme prévu?
Je dirais, je suis un peu content, mais pas vraiment 100%, parce que c'est un changement de situation.
Qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui, Floribert?
Bon, ce qui me manque, c'est l'ambiance familiale, je peux dire. Parce que au début, quand même, quand on se retrouve en famille, c'est super bien. Et du coup, on déménage, c'est une séparation totale. Alors, ce genre de situation me rend super malade et je ne suis pas vraiment en mesure de supporter ça.
Vous dites que ce changement vous rend super mal. Qu'est-ce que ça veut dire, super mal?
Alors, c'est-à-dire, je ne parviens pas vraiment à supporter ce changement, bien que c'est pour mon bien, et que je sois tout près de l'université. Mais je ne sais pas comment supporter ce genre de changement.
Donc c'est le sens de votre question. Vous avez déménagé parce que c'était plus pratique, mais finalement vous êtes plutôt déçu, c'est ça?
Absolument.
Mais en même temps, est-ce que vous aviez la possibilité de rester en famille à autant de distance de votre université? Est-ce que c'était faisable?
Du coup, au départ, c'était faisable, mais vu les embouteillages de mon pays, souvent j'arrivais à retard à l'université, des choses qui ne me permettaient pas vraiment de suivre d'autres cours et d'éviter à temps. Donc j'ai raté d'autres matières. Alors c'est ainsi que la famille a bien envisagé que je déménage pour être près de l'université pour que je profite mieux.
Floribert, c'était vous qui aviez choisi de partir ou quelqu'un a fait ce choix pour vous?
Ce n'est pas moi qui faisais ça, c'est la famille, vu que j'étais en distance. Mais j'avais aussi trouvé ça judicieux parce que du coup j'étais en distance et je devrais quand même être près de l'université.
Donc Floribert, donc, qui a du mal à quitter le nid familial à 22 ans. Bien sûr, il y a le pour, être près de la fac, mais il y a le contre, perdre les contacts familiaux. Comment est-ce que vous réagissez à ce témoignage, précisément sur cette difficulté d'adaptation?
Alors, il semble que ce déménagement ait eu lieu récemment. C'est-à-dire que Floribert doit avoir un petit peu de patience parce qu'il va sûrement se faire des amis proches de l'université. Là, c'est en partie une nouvelle vie parce qu'il peut revoir sa famille de temps en temps. Donc, il n'est pas dans un pays lointain ni quoi que ce soit. Donc là, un petit peu de patience. En plus, savoir que c'est pour ses études et c'est quand même la priorité, qu'il ne perd en aucun cas sa famille et que là, il y a une période d'adaptation désagréable, mais qui va se faire. D'ailleurs, il peut travailler en groupe pour se faire des amis. Et à la limite, il n'a pas tout à fait le choix. C'est aussi son choix qui est un peu pénible, mais l'objectif est vraiment très positif pour lui.
Ça veut dire qu'il est en train de prendre ses marques.
Ah, il prend ses marques, il prend une décision de vie qui est très importante, c'est-à-dire faire ses études, et il sera très fier de lui. C'est un moment désagréable, certainement.
Un passage, un palier. Un grand merci à vous, Floribert. On a un message de Rosalie d'Abidjan qui témoigne sur le répondeur WhatsApp de Priorité Santé, et sa voix a été modifiée pour, bien sûr, les besoins de l'anonymat.
Bonjour Priorité Santé, c'est Rosalie, j'ai 35 ans et je vous appelle d'Abidjan. Donc il y a un peu plus d'un an, je me suis séparée de mon époux. On a eu deux enfants qui sont sous ma garde. On a dû abandonner le projet immobilier qu'on avait ensemble. Donc je suis retournée chez mes parents. Là, je dois repartir à zéro. Tous les projets professionnels que j'avais, c'est-à-dire je voulais passer des formations professionnelles cette année. Donc j'ai dû abandonner cela parce qu'avec la garde des enfants, ce n'est pas du tout évident de trouver du temps pour faire ces formations-là en plus du boulot. Étant aussi une personne avec une santé fragile, j'ai une maladie chronique, c'est très 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 difficile de prendre soin de ma santé avec tous ces changements-là et le stress qui s'accumule. Parfois, je pense à est-ce que cela en valait le coup ? Est-ce que je ne suis pas fautive de tout ça, de tout ce qui m'arrive, vu que c'est moi qui ai demandé le divorce ? Peut-être que j'aurais dû rester, bien que ce divorce-là a été mûrement réfléchi et je l'ai fait pour mon bien-être et celui des enfants. Donc, j'aimerais bien que le docteur me donne des conseils sur comment me relever, comment prendre en charge mon avenir, comment voir le bout du tunnel, parce que là, je suis désemparée, mais aussi et surtout des conseils sur comment gérer l'aspect émotionnel des enfants afin que ce divorce-là les affecte le moins possible. Merci.
Alors, un grand départ pour Rosalie, docteur Marie-Claude Gavard, séparée, sentiment même de repartir à zéro. On perçoit aussi ce stress ressenti, une vraie détresse. Elle a envie de se protéger, elle, mais elle pense aussi aux enfants. Comment est-ce que vous réagissez à ce témoignage ?
Alors, déjà, Rosalie semble remettre en question son divorce. Heureusement, tout de suite après, elle dit non. C'est un divorce qui était important, ce n'était plus possible. Donc là, déjà, il faut qu'elle arrête de se poser cette question, parce qu'elle a sûrement fait le bon choix. Elle dit que elle a beaucoup raisonné, donc elle a fait le bon choix. On entend que Rosalie avait beaucoup de projets, aussi bien au niveau de la formation professionnelle, au niveau de l'immobilier, enfin bon, beaucoup de projets. Là, quand elle parle de repartir de zéro, non, c'est pas du tout vrai. C'est un continuum avec une grosse différence qui est la séparation avec son mari. Maintenant, elle est chez ses parents. Ce que j'entends, c'est qu'elle a une maladie chronique. Et ça, il semble que ce soit la priorité maintenant. Il faut qu'elle prenne soin d'elle, qu'elle se soigne. Au niveau des formations professionnelles, des stages, etc., elle peut mettre ça de côté pour le moment. Elle ne peut pas courir tous les lièvres à la fois. Il y a la santé, il y a la tranquillité chez les parents et les enfants qui sûrement sont plus heureux maintenant, parce que sinon, sûrement, elle n'aurait pas divorcé. Enfin bon, elle dit que c'était aussi pour le bien des enfants. Donc, qu'elle avance petit à petit, plutôt que de tout vouloir assumer en une traite comme ça. Et au niveau du projet immobilier, eh bien, si c'est retardé d'un, deux, trois ans, cinq ans, ça n'a absolument pas d'importance. Donc, ne pas tout vouloir en même temps, mais profiter du moment présent et surtout profiter du fait qu'elle n'est plus en conflit avec un mari qui ne lui convenait pas forcément.
On peut aussi entendre quand elle dit « est-ce que j'ai bien fait de divorcer ?» Peut-être qu'elle a les jugements des autres, le regard de l'extérieur qui lui dit « finalement, c'est de ta faute si tout est tombé par terre et tu as fait le mauvais choix ». Donc, il faut aussi qu'elle puisse réagir à ces critiques.
Oui, parce qu'en fait, sûrement il y a des critiques, mais elle sait et elle le dit qu'elle a eu raison de le faire. Mmh. Et en fait, il n'y a qu'elle qui peut le savoir.
C'est son choix. Merci en tout cas, Rosalie, pour ce message. On part maintenant pour le Cameroun. Et c'est à Douala qu'on va retrouver maintenant en ligne Tchoubébé. Tchoubébé, bonjour.
Oui, bonjour Madame Caroline.
Alors, vous avez quitté le Tchad, vous, pour étudier la médecine, notre deuxième étudiant en médecine de cette émission. Alors, le Tchad pour le Cameroun, comment se passe cette installation à Douala?
Ok, je suis, selon moi, bien installé à Douala, mais ce qui me préoccupe est que cette ville est différente de ma ville natale, et puis je trouve beaucoup de changements qui fait que je ne suis jamais heureux et la culture aussi n'est pas la mienne. Et je souhaiterais vous poser quelques questions si vous pouvez m'aider.
Alors, vous avez perdu vos repères en changeant de ville, on a bien compris. Est-ce qu'il y a des difficultés au quotidien? Est-ce qu'il y a des moments où vous vous sentez un petit peu déprimé? À Douala, comment est-ce que vous vous en sortez côté organisation?
Ok. Étant au Tchad, j'avais obtenu le concours de la faculté de la médecine, option sciences biomédicales. Et puis, ma formation au Tchad était financée par le gouvernement tchadien. Et aussi au Tchad, mes parents m'envoyaient de l'argent et m'aidaient beaucoup.
Oui.
Et une fois fini là-bas, après ma soutenance, j'ai pris une décision de venir à Douala faire ma spécialité en épidémiologie. Car il n'y a pas d'épidémiologie dans mon pays.
Mm-hmm.
Mais une fois arrivé ici, il n'y a plus aide de mon gouvernement ni de ma famille.
Ça veut dire, Tchoubébé, qu'en plus de ce problème où vous vous sentez un petit peu seul, il y a quand même pas mal de problèmes matériels.
Oui, il y a problème de matériel. L'argent où je dois payer l'inscription avec, j'ai divisé en deux. Une partie, j'ai acheté une moto pour transporter les gens afin de me prendre en charge car je suis sous ma responsabilité sans aucun aide.
Sans aucune aide extérieure. Ça veut dire qu'aujourd'hui, non seulement vous êtes étudiant en médecine, vous êtes en plus moto-taxi. J'imagine que c'est très fatigant tout ça.
Oui, il me faut rouler le matin ou bien tard le soir avant d'aller au cours pour chercher l'argent des locations, et l'argent de ma nourriture et aussi de mes documents à la fin et aussi de mes recherches.
Est-ce qu'aujourd'hui, d'une certaine manière, vous regrettez d'être parti du Tchad de chez vous?
Bon, moi, quitter le Tchad, venir faire ma spécialité, j'étais content de venir. Et une fois arrivé ici, quand je ne reçois plus des aides, je trouve que je suis coincé et adapté avec le changement d'ici et me complique un peu.
D'accord, donc on comprend qu'il y a le changement, ça va, mais en fait ce sont les conséquences de ce changement sur le plan financier, sur le plan des relations, c'est très lourd pour vous. Ça veut dire aujourd'hui que vous aimeriez quoi comme type de conseil, Tchoubébé?
Le conseil que j'aimerais envers vous, car je suis ici, je ne suis jamais heureux un jour, est-ce que je peux regretter ma décision de venir étudier ici au Cameroun?
Docteur Marie-Claude Gavard, c'est vrai qu'il y a eu énormément de changements pour Tchoubébé. Il était à la maison, avec la famille, avec une bourse. On va dire qu'il était bien encadré. Et là, il est livré à lui-même. Il travaille beaucoup pour la fac. Il travaille beaucoup aussi pour gagner son pain en conduisant cette moto. C'est vrai qu'il y a de quoi se poser des questions.
Alors, il y a de quoi se poser des questions, oui ou non? Et oui et non. Parce qu'en fait, vous avez un objectif qui est vraiment ce qui vous plaît, être spécialiste en médecine. Vous auriez déjà pu exercer la médecine générale puisque là, vous êtes en spécialité. Cette spécialité semble importante pour vous. Vous pouvez être extrêmement fier de respecter votre choix, quitte à ce que pendant 3 ans, ce soit vraiment difficile, parce que là, il semble que ce soit vraiment fatigant. Mais bon, la fatigue, on s'en remet aussi. Alors, est-ce qu'il y a des possibilités de faire des gardes à l'hôpital qui seraient moins fatigantes, et encore, c'est pas sûr, que moto-taxi? Mais si vous regrettez réellement, vous pouvez retourner chez vous. Maintenant, vous serez déçu par vous-même de ne pas avoir fait cette spécialité qui a l'air de vraiment vous plaire, mais c'est un choix qui vous appartient. Vous n'avez peut-être pas intérêt à prendre une décision à un moment où vous avez le moral un peu vacillant, parce que vous risquez de dire « bon, allez, je rentre chez moi » et le regretter assez rapidement. Maintenant, la spécialité, ça doit être 3 ans, je pense. Est-ce que ça ne vaut pas la peine de faire cet effort? Ça, c'est vous qui pouvez le savoir.
Mmh.
Imaginez-vous spécialiste dans votre pays après, parce que là, vous pouvez en profiter pour connaître un peu de la culture camerounaise, pour vous ouvrir un petit peu à ce qui se passe dans ce pays. Parce que votre pays, vous allez le retrouver de toute façon.
Tchoubébé, est-ce qu'aujourd'hui, vous avez l'impression que vous manquez d'encouragement?
Oui, l'encouragement ne vient nulle d'autre part.
Oui. Est-ce que la famille vous encourage? Est-ce que les profs vous encouragent? Est-ce que vous avez d'ailleurs quelques amis pour vous encourager?
Oui, il y a les amis qui m'encouragent. Et il y a aussi la famille maternelle qui m'encourage, mais l'encouragement verbal. Je veux poser la deuxième question, si le psychologue peut m'aider.
D'accord, allez-y, posez votre deuxième question, Tchou bébé.
Ok. Et là-bas, je faisais le taekwondo. Quand je faisais, je retrouve la santé un peu et je me sens en joie un peu. Et j'aimerais savoir si continuer le taekwondo ou art martiaux ici au Cameroun, est-ce que ça m'aidera à se sentir mieux dans mes études et dans les conditions où je me trouve?
C'est une question très importante que vous posez sur l'importance de l'activité physique pour se sentir mieux dans sa peau, mieux dans sa vie, docteur Gavard.
Alors, vous avez totalement raison et vous avez intérêt à vous dépêcher de reprendre les arts martiaux parce que vous savez, quand on fait du sport, on sécrète des hormones qui sont des endorphines, c'est-à-dire des hormones du bonheur, bonheur psychologique et physique. Donc, vous avez déjà cette expérience que pour vous, c'est très positif, mais ça le serait pour tout le monde. Donc, si vous pouvez faire ça, ou s'il n'y a pas de taekwondo, vous êtes un autre sport martial, une autre activité, mais sportive, et assez fréquente, pas une seule fois par semaine, plutôt fréquemment, parce qu'à chaque fois, vous sentirez mieux.
Vous avez auprès de vous un club ou quelque part où vous inscrire, justement, pour reprendre cette activité physique, Tchou bébé?
Je cherche, je n'ai pas encore retrouvé un club ici qui peut m'aider encore.
Peut-être en vous tournant vers l'université, très souvent il y a des groupes sportifs associés aux étudiants, vous pourrez très certainement trouver votre bonheur. En tout cas, on vous dit un grand merci pour votre témoignage et on vous encourage, parce qu'il en faut du courage pour faire une spécialité en médecine en étant mototaxi en même temps et en faisant du taekwondo. Chapeau à vous, Tchou bébé. On vous remercie, docteur Marie-Claude Gavard, pour tous ces conseils à nos auditrices, à nos auditeurs, pour votre écoute. On vous dit à très bientôt dans Priorité Santé.
Avec plaisir.
Et on va parler dans quelques instants de la prise en charge du VIH pédiatrique, hein, VIH-SIDA chez les enfants, à l'occasion d'un séminaire sur cette question qui est organisée à Djibouti. Ce sera juste après ce titre, collaboration entre Vodou Game et Clara Serra Lopez. Le titre donc, c'est Râler. Un séminaire qui se tient jusqu'au 7 décembre à Djibouti, rendez-vous qui va réunir des infectiologues, des médecins, des activistes en santé pour un état des lieux sur la prise en charge du VIH-Sida chez les enfants dans l'état de la Corne de l'Afrique. Alors pour en parler avec nous, on vous retrouve, docteur Emma Assina, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes pédiatre, cofondatrice et membre de l'association Solidarité Féminine qui organise cet événement à Djibouti. Donc un rendez-vous pour essayer de faire bouger les lignes en matière de prise en charge du VIH pédiatrique dans votre pays. Peut-être pour commencer des chiffres, est-ce que vous avez des données sur l'incidence de la maladie chez les plus jeunes ?
L'incidence chez la maladie chez les plus jeunes, et c'est encore très aléatoire. On a des chiffres un peu, éparpillés. On a des chiffres, certes, mais ça ne représente pas vraiment l'infection à VIH. Par exemple, nous disposons quand même de données, et les données sont aussi ventilées pour les femmes enceintes. En 2023, par exemple, sur 15 000 et quelques dames dépistées enceintes, on a trouvé 20 femmes enceintes dépistées positive, ça représente environ 0,12% des femmes enceintes testées.
Est-ce qu'aujourd'hui le dépistage du VIH-Sida, c'est systématique chez la femme enceinte à Djibouti ? Est-ce que c'est automatiquement proposé ?
C'est automatiquement proposé, c'est pas toujours accepté, ce qui fait qu'on a vraiment une perte de future maman. Et de ce fait, on retrouve des enfants qui sont dépistés très tardivement, au stade SIDA.
Parce qu'il faut rappeler aux auditeurs et aux auditrices aujourd'hui, et c'est important, que lorsque la maman est dépistée et traitée au cours de la grossesse, cela peut éviter la transmission du virus au bébé à naître, un bébé qui naîtra donc séronégatif.
Absolument. Et c'est primordial pour diminuer significativement le nombre d'enfants séropositifs. Et c'est aussi un des chemins de bataille de l'association. Nous essayons dès le début de la grossesse de sensibiliser toutes les dames déjà pour un dépistage précoce pendant la grossesse. Et s'il s'avère que ce dépistage est positif, on fait surtout cet accompagnement qui est vraiment nécessaire à Djibouti comme ailleurs. À Djibouti, là où il y a beaucoup de stigmatisation, et donc ces femmes se protègent en se cachant et en ne disant pas toujours leur séropositivité, même lorsqu'elles accouchent. Et c'est pour ça qu'on a un retard au diagnostic pour nos bébés.
Alors, on reparle de ce séminaire que vous organisez. On comprend bien un rendez-vous pour essayer de faire bouger les lignes en matière de prise en charge du VIH pédiatrique dans votre pays. Si on brosse un tableau général, qu'est-ce qui devrait changer ?
Beaucoup de choses. L'ambiance générale de prise en charge, à savoir qu'il ne faut pas diaboliser, je dirais, cette prise en charge de l'enfant, qui pendant longtemps a été compliquée. Il faut quand même se dire que les enfants ont été traités beaucoup plus tard que les adultes. Je me rappelle qu'au début des ARV à Djibouti, c'était très compliqué déjà pour calculer la posologie, c'était sur la surface corporelle, on changeait de posologie suivant le poids, tous les 5 kilos, c'était compliqué.
Ce que vous êtes en train de nous expliquer, c'est que les médicaments ne sont pas adaptés, les antirétroviraux, en formule pédiatrique jusque-là.
Alors, au départ, c'était en formule pédiatrique, c'était très compliqué à donner. On avait plusieurs sirops, c'était compliqué, dont un sirop qu'il fallait mettre au frigidaire. Et à cette époque, c'était à Djibouti, où il fait quand même très chaud, c'était compliqué. Actuellement, c'est justement pour encourager les pédiatres, pas seulement les pédiatres, mais les médecins, à prendre en charge les enfants qui se présentent séropositifs dans leur dispensaire, on veut vraiment les encourager à les prendre en charge. On peut les aider à faire un système de référence et en disant, nous avons des posologies qui sont de plus en plus simples, des traitements très simplifiés et on peut le faire. Surtout qu'à Djibouti, nous avons la chance d'avoir des PCR, d'avoir des réactifs. Donc, on peut diagnostiquer précocement les enfants. Nous avons aussi la chance d'avoir des accompagnateurs psychosociaux qui réussissent à faire le lien entre la communauté et les structures médicales et sociales.
Docteur Emma Sina, pour ce séminaire, vous faites appel à des intervenants extérieurs avec des profils variés. Qu'est-ce qu'ils peuvent apporter en termes d'expérience dans vos échanges ?
Ils peuvent apporter les expériences réussies à l'extérieur. Nous avons le professeur Sylla, nous avons le docteur Diak du Mali, du Sénégal, des médecins tels que le docteur Masson, qui est le pédiatre référent de SIDAction et qui connaît beaucoup de pays africains et des prises en charge, et docteur Abdan Goudjo, qui connaît très bien Djibouti et qui nous a aidés à former ces fameux accompagnateurs psychosociaux et qui créent le lien et sur lesquels reposent beaucoup nos activités. Et en plus de ça, nous avons le professeur Blanche qui il n'a pas pu venir à Djibouti, mais il va intervenir par visio. Donc, vraiment des échanges qui, j'espère, seront fructueux et aideront vraiment tous les acteurs du circuit de prise en charge de l'enfant à prendre en charge les enfants. Ce sera une amélioration, je pense. Et SF pourra aussi parler de son expérience auprès de ses enfants, des mères, des activités nutritionnelles, sociales, psychosociales. Et on pourra échanger et voir comment on peut rétablir un circuit national et efficace.
Au cours de cette rencontre, dernière question, docteur Emma Sina, il va être aussi question de la perception de la maladie, l'annonce du diagnostic, le vécu des patients. Est-ce qu'il y a des particularités spécifiques quand on aborde cette maladie, précisément le VIH-Sida, dans le contexte de Djibouti, ce volet notamment de la stigmatisation ?
Absolument. Et c'est l'un des grands obstacles pour cette prise en charge. Les parents se cachent aux autres membres de leur famille, de leur communauté, leur maladie, et très souvent ne révèlent pas la maladie des enfants aux autres parents. Ce qui fait qu'il y a des enfants qui prennent des médicaments, qui ne savent pas pourquoi, et toute cette révélation est difficile à faire. La stigmatisation est là, la peur de l'autre, et ça, c'est réellement un grand obstacle.
Un grand merci à vous pour toutes ces explications, docteur Emma Sina. Et Priorité Santé touche à sa fin. Merci à toute l'équipe qui chaque jour prépare et réalise votre émission. Ophélie Lassène, Louise Kaledek et Talim Pou, Didier Bleu à la réalisation. Demain, émission Questions de femmes, nous allons parler de la nutrition, de l'équilibre alimentaire des personnes âgées. Bien se nourrir, adapter son alimentation en fonction de l'âge. On se donne rendez-vous à 9h10, temps universel. D'ici là, restez à l'écoute de RFI et surtout, portez-vous bien.
C'était Priorité Santé avec Sounou Assurance. Notre métier, l'assurance, et Sounou Banque avec vous à chaque étape.